complètement vôtre. Votre émission du jasmin d'argent.
Alors, avec tout ça, on arrive 1960. Période super importante au Québec. 1960-1980, on appelait ça la Révolution tranquille. Il y a un nouveau parti politique qui prend le pouvoir et qui prend le pouvoir avec un slogan qui dit « Maître chez nous ». Donc là, c'est vraiment cette volonté des Canadiens français qui, à partir de cette époque, vont choisir de s'appeler Québécois. Dire « Bon, ben ça suffit là, d'être les porteurs d'eau. Nous, on veut pouvoir être maître chez nous. » Donc, c'est un grand, grand, grand mouvement, période pendant laquelle l'identité québécoise se redéfinit de façon très, très forte. C'est dans ce moment-là que vont se mettre en place toutes sortes de luttes politiques, de mouvements qu'on appelle indépendantistes, qui vont mener à des référendums. Donc, tout, il y a une grande, grande partie de la population québécoise qui souhaite devenir un pays vraiment indépendant, qui se séparerait du Canada. En poésie, on va parler de cette période comme de la période dite de l'âge de la parole. Et en fait, c'est inspiré du titre d'un recueil d'un poète de l'époque qui s'appelait Roland Giguère. On dit de cette période que c'est l'âge de la parole parce que justement, comme beaucoup, beaucoup de Québécois vont prendre la parole pour dénoncer leur état d'oppression et puis revendiquer leur identité. C'est peut-être difficile à imaginer pour des gens qui ne sont pas Québécois à quel point, avant la Révolution tranquille, les Québécois étaient justement complètement assujettis à la domination des Anglais et comment ils avaient vraiment très, très peu d'espace pour être eux-mêmes et afficher leur identité. Donc, peut-être que le terme d'oppression peut vous paraître fort pour décrire ce que les Canadiens français vivaient pendant la période de la Grande Noirceur, mais ce n'est pas un terme trop fort. C'est vraiment un terme qui décrit bien ce qui était la situation. Alors, à partir de 1960, c'est vraiment un grand, grand, grand balayage de beaucoup des valeurs anciennes. Et on va dire que la poésie qui va s'écrire, en particulier pendant les années 1960, on va l'appeler la poésie du pays, dans le fond. Donc, c'est une poésie qui va dénoncer la domination anglophone et l'assujettissement des Québécois. On disait toujours des Québécois qui étaient nés pour un petit pain, donc nés pour pas grand-chose, finalement, pour avoir une petite vie. De toute façon, ils n'ont pas d'ambition, on le sait bien, donc ils sont nés pour un petit pain. Donc là, ça commence à être dénoncé. C'est une poésie lyrique, la poésie du pays, où les poètes vont beaucoup décrire le territoire, parler de leur désir de fonder un pays neuf, parler de la beauté de ce territoire-là qui est gigantesque, finalement, puis c'est comme si on se le réappropriait. Il y a vraiment aussi le désir, à cette époque-là, à cette période-là, de se rendre compte que, oui, on a un lien très, très fort qui nous lie à la France, mais en même temps, on vit sur le territoire nord-américain depuis plusieurs siècles déjà, et ça aussi, ça a forgé notre identité. Donc, on se met à interroger beaucoup ce rapport-là à l'Amérique. Il y a un désir de rompre avec le canon poétique français. Donc, c'est à ce moment-là qu'on voit tranquillement apparaître une langue populaire, notamment ce qu'on appelle le joual québécois, qu'on le voit tranquillement s'installer dans la pratique littéraire. Et c'est une poésie, donc la poésie du pays, qui est vraiment très, très liée à un projet politique, au projet, au désir vraiment là, de faire l'indépendance. Puis, l'apparition du joual dans la littérature, mais c'est aussi beaucoup ça. C'est une manière vraiment de dire, ça, c'est notre langue. C'est la langue qui nous ressemble. Et cette langue-là, elle est peut-être pas extraordinaire. Elle traduit en partie notre asservissement collectif. Elle traduit en partie notre manque d'éducation. Mais en même temps, elle est extrêmement riche, extrêmement vivante. Il faut la réhabiliter, cette forme d'oralité-là. C'est pour ça que c'est une réalité qui va tranquillement investir la littérature. Une des figures emblématiques de cette période-là, c'est un poète qui s'appelle Gaston Miron, qui va fonder une maison d'édition en 1954 avec d'autres poètes, une maison d'édition qui existe encore aujourd'hui qui s'appelle l'Hexagone. C'était quelqu'un qui était très impliqué dans la création de revues. C'est un militant politique pour l'indépendance, un animateur de la scène politique. En fondant l'Hexagone, lui, il avait vraiment envie de dire, ben justement, les poètes là, qui ont écrit dans la solitude, là, ça, on n'en veut plus. Nous, on veut qu'il y ait comme on veut créer un regroupement culturel, on veut qu'il y ait comme, que ça soit accueillant, on veut que ça soit, qu'il y ait une collectivité de poètes qu'on puisse soutenir finalement pour vraiment les aider à publier, puis etc. Gaston Miron, il a publié un seul recueil parce que pendant toute sa vie, il a retravaillé sans cesse les mêmes poèmes. Il les disait très, 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 très souvent sur des scènes où il prenait la parole pour lire sa poésie. Mais ça a été très long avant qu'il publie. C'est un ami qui lui a convaincu en disant, là, comme, Gaston, sois sérieux, on veut lire ta poésie. Et il en a publié une première édition en 1970, mais il n'a pas cessé de retravailler encore. Chaque nouvelle édition a été revue par lui. C'est le premier poète québécois à être publié ensuite chez Gallimard. Donc, L'Homme rapaillé, ça a été publié chez Gallimard. Il disait « Je vois la poésie comme une anthropologie, comme une défense et illustration d'un être collectif. La poésie est ce qui nous fait être et nous pose dans la durée, alors que l'existence se dissout dans le temps. » Le titre de son recueil s'appelle « L'Homme rapaillé ». Et ça renvoie justement à cette idée d'identité fragmentée. L'homme rapaillé, c'est l'homme morcelé qui doit, pour devenir un, recoller dans le fond les morceaux de son identité. Donc, poète qui est décédé depuis un certain temps, mais son œuvre continue à être lui aussi très vivante. Il y a des spectacles en son honneur. Un disque qui a été fait, même deux, qui s'appelait « 12 hommes rapaillés » qui mettait en poésie, en musique, ses poèmes, et c'est plusieurs chanteurs québécois qui ont interprété ça. Récemment, il y a eu un recueil, un collectif d'écriture qui s'appelait « Les femmes rapaillées » en hommage à Gaston Miron. C'est une époque aussi, les années 60, où la poésie, ça se passe beaucoup par la chanson. Peut-être que vous connaissez quelqu'un comme Gilles Vigneault, qui est un grand chanteur du territoire québécois, de l'hiver québécois. Donc, lui, il commence à devenir très, très populaire à cette période-là. 1968, il y a un spectacle important qui va s'appeler « Les poèmes et chants de la résistance ». Et ensuite de ça, en 1970, un événement qui va être vraiment marquant dans l'imaginaire collectif québécois en poésie. On appelle ça « La nuit de la poésie » en 1970. Quelques amis qui se disent « On devrait faire une nuit de la poésie » parce que oui, tu sais, un tel qui travaille à l'Office national du film, il aurait envie de faire un documentaire sur la poésie. Allez, on fait ça un peu à la bonne franquette. On appelle nos amis, tout ça. Puis on peut avoir le théâtre Jésus. Puis on se présente là, puis il y aura qui y aura, puis voilà. Il n'y avait évidemment pas Internet à l'époque, mais le bouche-à-oreille a tellement bien fait son œuvre qu'ils ont refusé vraiment un nombre incroyable de gens. Donc, ça a été une nuit complète de poésie de 5 heures le soir à jusqu'aux 6 heures le lendemain matin, avec toutes sortes de substances illicites qui circulaient pour permettre aux gens de tenir le coup. Plus de 50 poètes qui sont montés sur scène, de tous les âges, de tous les types aussi de poésie. Il y avait des musiciens sur scène, il y avait un animateur, et tout ça a été filmé, puis ça a donné lieu à un documentaire aussi. Et c'est vraiment un moment vraiment très, très, très marquant dans l'imaginaire collectif québécois, puis notamment. Et c'est lors de cette nuit de la poésie, il y a une poète, une femme qui s'appelait Michèle Lalonde, qui avait écrit un texte 2 ans auparavant, mais qui l'a fait sur scène ce soir-là. Et ça aussi, c'est devenu un peu un des poèmes canoniques de la poésie québécoise. Donc, souvent, les gens qui ne connaissent pas la poésie québécoise vont savoir que Émile Lérigan, dont je vous ai parlé tout à l'heure, existe. Puis, ils vont connaître le poème « Speak White » de Michèle Lalonde. Donc, son poème s'appelle « Speak White », qui était, dans le fond, une injure utilisé par les esclavagistes quand ils s'adressaient à leurs esclaves pour leur dire « Speak white, parle blanc, parce que toi, ta parlure vaut rien. » Et les patrons anglophones, sous les ordres desquels travaillaient les ouvriers québécois, ont repris cette même injure-là. Assez récemment, je voyais dans un documentaire, tu sais, un ouvrier qui disait « Mais je me faisais dire ça tous les jours, plusieurs fois par jour. » Donc, c'est vraiment comme extrêmement méprisant. Donc, elle a écrit un long poème qui s'inscrit parfaitement dans cette poésie du pays, très, très dénonciateur, très ironique aussi. Alors, comme il est si emblématique de la poésie québécoise, je vous lis. « Speak white. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak white. Et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Néligan. Speak white. Parlez de choses et d'autres. Parlez-nous de la grande charte ou du monument à Lincoln, du charme gris, de la Tamise, de l'eau rose, du Potomac. Parlez-nous de vos traditions. Nous sommes un peuple peu brillant, mais fort capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party. Mais quand vous really speak white, quand vous get down to brass tacks, pour parler du gracious living et parler du standard de vie et de la grande société, un peu plus fort alors, speak white, haussez vos voix de contremaître. Nous sommes un peu durs d'oreilles, nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Speak white and loud, qu'on vous entende de Saint-Henri à Saint-Domingue. Oui, quelle admirable langue pour embaucher, donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Speak white, tell us that God is a great big shot and that we're paid to trust him. Speak white, parlez-nous production, profits et pourcentages. Speak white, c'est une langue riche pour acheter, mais pour vendre. Mais pour se vendre à perte d'âme et oui, pour se vendre. Ah, speak white, big deal, mais pour vous dire l'éternité d'un jour de grève, pour raconter une vie de peuple concierge, mais pour rentrer chez nous le soir à l'heure où le soleil s'en vient crever au-dessus des ruelles, mais pour vous dire, oui, que le soleil se couche, oui, chaque jour de nos vies à l'est de vos empires, rien ne vaut qu'une langue à jurons, notre parlure pas très propre, tachée de cambouis et d'huile. Speak white. Soyez à l'aise dans vos mots. Nous sommes un peuple rancunier, mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction de langage. Dans la langue douce de Shakespeare avec l'accent de Longfellow, parlez un français pur et atrocement blanc comme au Vietnam, au Congo. Parlez un allemand impeccable, une étoile jaune entre les dents. Parlez russe par les rappels à l'ordre, par les répressions. Speak white, c'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre avec ses mots lacrymogènes, avec ses mots matraques. Speak white. Tell us again about freedom and democracy. Nous savons que liberté est un mot noir comme la misère est nègre et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock. Speak white de Westminster à Washington. Relayez-vous. Speak white comme à Wall Street, white comme à Watts. Be civilized et comprenez notre parler de circonstances quand vous nous demandez poliment « How do you do? » et nous entendez répondre « We are doing all right, we are doing fine, we are not alone. » Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Quand même, c'est un poème très fort. Bref. Alors, fin des années 60, 1970, je passe relativement rapidement. La poésie du pays est encore là un peu, mais en même un mouvement aussi plus formaliste. Donc, des écrivains écrivaines très inspirés par la théorie littéraire qui vont vouloir mettre à distance le lyrisme, mettre à distance le discours politique. Donc, une poésie, justement, beaucoup plus formaliste. Il y a une maison d'édition, d'ailleurs, qui s'appelle Les Herbes Rouges, qui est fondée en 1968, qui va être le vecteur principal de ces poètes-là. Une maison d'édition qui existe encore aujourd'hui. Très influencée, ces poètes-là, par le structuralisme, la psychanalyse, entre autres. Et en même temps, il y a toute une influence de la contre-culture américaine, du jazz américain, du sexe, drogue et rock'n'roll. Donc, toute une poésie vraiment décapante qui met en scène des personnages de paumés, une poésie assez anarchiste, assez vulgaire aussi, à forte connotation sexuelle. Donc, il y a tout ça aussi là, qui arrive dans le paysage. Ensuite, à partir des années 80, autant justement pendant les années 60-70, un critique littéraire qui disait que la poésie, dans les années 60-70, c'était le vaisseau amiral de la littérature québécoise. Donc, vraiment, le genre le plus prisé, c'était la poésie. À partir des années 80, pendant une bonne vingtaine d'années, la poésie perd de son luisant, puis elle sombre un peu plus dans l'oubli. Donc, l'espèce de... On se serrait les coudes autour de la poésie comme on se serrait les coudes autour du projet politique qui était l'indépendance. 1980, c'est l'échec du premier référendum par lequel les Québécois ont totalement, majoritairement refusé à 60% de former un pays indépendant. Mais comme l'élite artistique était principalement indépendantiste, beaucoup de grands intellectuels étaient indépendantistes, cet échec-là, c'est une désillusion incroyable qui va vraiment entraîner un virage, là, vraiment dans la littérature, pas juste en poésie, on le voit vraiment, vraiment aussi dans les romans, beaucoup, beaucoup. Donc, on délaisse le terrain politique, puis on se tourne vraiment vers le terrain de l'intimité. C'est beaucoup aussi lié au fait que, dans les années 80, l'écriture des femmes, l'écriture féministe, féminine, se développe énormément au Québec. Les femmes vont revendiquer de nouveaux thèmes, le droit de parler de choses nouvelles comme le corps, l'érotisme, la vie quotidienne, les relations amoureuses, l'intimité, la quête de soi. Elles vont bien sûr dénoncer les causes de leur aliénation, l'aliénation du genre féminin. Il va avoir un désir de créer une solidarité féminine, un désir de permettre l'émergence d'une parole typiquement féminine, donc vraiment un désir de bousculer les codes de la langue. Donc vraiment, grâce à l'écriture des femmes, le Québec entre vraiment dans la postmodernité littéraire à cette époque-là. Donc l'écriture des femmes va être extrêmement novatrice sur le plan de la forme. Il y a des maisons d'édition qui sont créées aussi en 1975. Une première maison d'édition féministe qui s'appelle les éditions de la Pleine Lune. Une deuxième l'année suivante, les éditions du Remue-Ménage. Parce que les femmes, à l'époque, se rendent compte qu'elles ont beau envoyer des manuscrits dans les maisons d'édition, elles ne sont pas publiées. Parce que dans les maisons d'édition, les comités de lecteurs, ce sont des hommes. Puis les directeurs littéraires, ce sont des hommes. Alors là, elles se disent, ben si on veut être publié, on va créer des maisons d'édition où les lecteurs... vont être des femmes, puis les éditrices vont être des femmes, puis voilà. Donc, des maisons d'édition qui sont créées. C'est une époque aussi où on commence à voir vraiment le brouillage entre les genres, donc la poésie en fragments, la poésie journal, la poésie essai, même parfois des recueils en prose poétique. Donc, ça bouge vraiment, vraiment beaucoup. C'est une époque aussi où plusieurs des poètes femmes de cette époque-là, mais pas juste femmes, vont avoir aussi une pratique de romancier. Donc, ils vont souvent naviguer entre les deux genres littéraires. Et certaines de ces poètes sont aussi elles-mêmes professeurs de littérature et commencent à faire des recherches sur l'écriture des femmes, sur l'écriture des femmes au Québec. Et voilà. Et donc, parmi ces auteurs-là, il y en a quelques-unes que je peux vous faire découvrir. Il y en a une qui s'appelle, qui est une poète qui jouit quand même d'une très bonne carrière chez nous encore aujourd'hui. Elle s'appelle Hélène Dorion. Récemment, il y a une de ses œuvres qui a été choisie pour le bac, pour passer le bac. Donc, c'est quelqu'un qui a une poésie presque métaphysique, en fait, qui regarde la vie, les petites choses. Donc, souvent, elle est très près de la nature aussi dans certains de ses recueils. Mais c'est comme un petit regard très précis porté sur certains petits détails, parfois, de la vie quotidienne. C'est une poésie assez limpide aussi. Là. C'est pour ça que moi, j'aime bien parfois en lire à mes étudiants, justement, parce que souvent, mes étudiants ils disent que la poésie, c'est trop difficile à comprendre. Mais la poésie d'Hélène Dorion, elle est quand même vraiment accessible. Avec les milliers de petites vies entassées dans leur solitude, le poème résiste à ce qui nous éloigne de nous-mêmes. Rôde dans l'opaque et l'éclair, découvre la brèche, cherche le rêve, cherche l'embrasement. Le monde nous enferme dans les secousses répétées de l'histoire, la dérive du naufragé, les lambeaux de l'errant. Le poème ronge la branche jusqu'à la chute, souffle sur le feu du voyage inachevé. Ça, c'est d'ailleurs un livre qui a été publié aux éditions Bruno Doucet. Donc, elle publie pas seulement au Québec. Je ne sais pas poser les mains sur les touches du piano, Laissez les doigts enlacer l'émotion puis la relâcher. Je ne sais pas mettre le bémol sur une portée, donner le la d'une parfaite mélodie. Ne sais pas taper du pied, pas battre l'exacte mesure, pas entrer dans le cadre, garder le rythme du cœur, dire voilà, c'est moi. Le reflet prisonnier d'un visage longe la paroi où se brise l'amour. On imagine un océan d'orages, de branches et de feux, un paysage ravagé dans la froide géométrie du ciel, tout ce qui ne sera jamais que de passage. Les îles surgissent et flottent comme frêles fragments de terre, lignes courbes où glissent des lunes ardentes. Chaque saison s'imprègne dans les racines. Ici, la pierre est de corail. Sous mes pas, le sol et des souvenirs que l'on destine à survivre se détachent peu à peu des marées obscures. C'est une poésie qui parfois peut être porteuse d'une grande souffrance, mais qui finit toujours par être apaisante. Une autre poète, là, je voulais apporter des livres de poésie québécoise, puis au début, ma valise était comme non, je me dis non, ça n'a aucun bon sens. Et je me suis dit, mais pourquoi tu n'optes pas pour une anthologie? C'est ce que j'ai fait. Donc ici, poète de la même époque, donc Louise Dupré, donc quelqu'un, tu vois, elle est née en 1949, à peu près même âge qu'Hélène Dorion, peut-être un petit peu plus âgée, prof de littérature qui a justement beaucoup fait pour transmettre le goût de la littérature québécoise et de la poésie des femmes, en particulier au Québec. Elle a notamment un recueil dont le titre m'échappe alors que je voudrais m'en souvenir. Ça va me revenir. Mais c'est un de mes recueils préférés de la littérature québécoise. Malheureusement, ce n'est pas des extraits de celui-là qu'il y a dans ça, mais le titre me reviendra tout à l'heure quand j'en aurai plus besoin, puis je vous le dirai à ce moment-là. Si jamais vous avez... Ah oui, c'est « Plus haut que les flammes ». C'est un très court recueil dans lequel elle est allée visiter Auschwitz lors d'un voyage. Et quand elle est revenue de là, pendant un an, dit-elle, elle a été incapable d'écrire. Et quand elle a recommencé à écrire, elle a écrit ce recueil-là. Je pense que la raison pour laquelle je l'aime si profondément, c'est qu'elle a des questions qui ressemblent aux miennes, en fait. Et sa question, c'est « Mais comment est-ce qu'on peut continuer à vivre quand il y a tellement d'horreurs terribles, quand il y a des gens en ce moment, Israël, Palestine, là, je veux dire, comment on peut continuer? Comment? » Comment moi je peux continuer? Comment je peux être ici ce soir en train de faire ce que je fais là devant vous alors qu'il y a tant d'horreurs? Est-ce que tout ça ne devrait pas freiner notre élan d'écrire à tout jamais, en quelque sorte? Et en même temps, dans ce recueil-là, elle rencontre de ça, de l'horreur d'Auschwitz, mais elle parle aussi à son petit-fils. Elle met en scène son petit-fils. Et son petit-fils est ce qui la ramène totalement du côté du vivant. Puis elle dit, mais tu sais, les deux coexistent. Et il faut juste comme chercher sa posture à l'intérieur de tout ça, mais les deux coexistent. Et c'est une poète qui travaille beaucoup, je trouve, à partir de questionnements existentiels très profonds. Puis elle cherche pas du tout à donner de réponses. Dans ses romans, c'est la même chose. Elle a fait un roman où elle met en scène un tueur dans un milieu scolaire, en fait. C'est donc un jeune garçon qui va s'introduire dans une classe à l'université, puis qui va tuer des étudiants, puis qui va tuer notamment son père, qui est le conférencier invité. En fait, il tue pas son père, mais il le blesse très, 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 très sévèrement. Le roman est écrit du point de vue de l'épouse de cet homme-là, qui est la belle-mère du fils, puis qui s'interroge sur ça, cet événement-là, puis comment vivre après ça. Mais encore là, c'est ça, c'est tout ça est à petite dose très nuancé, puis jamais elle va arriver avec... une vérité avec un V majuscule ou avec des réponses toutes faites. Et ça, moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, ça, c'est tiré d'un recueil qui s'appelle « La main hantée » paru en 2016. « Ta détresse n'a rien à voir avec la mélancolie, ni avec le désordre du poème lorsqu'il crie de rage, ni avec le désespoir de ceux qui ont perdu la foi. C'est une langue à la grammaire déréglée, et les signes se mettent à errer, ils migrent d'une phrase à l'autre. Ça s'ouvre en toi, ça baie, ça bêle comme sur l'autel pascal. Tu es l'agneau et le couteau de tous les sacrifices, l'expiation et la main vengeresse. Tu es un nom divisé par deux, l'intuition que tu pourrais voir s'effacer ton ultime image. Mais il te reste heureusement quelques métaphores, elles te protègent des maux irréparables. Il te reste une chambre où tu te blottis en répétant à voix basse la leçon de la lumière. Ton territoire s'est construit malgré toi sur une plaie à ciel ouvert. Il inquiète les jours et leurs ailes, les nuits et leurs ailes. C'est sans repos où tu habites, un guet permanent. Tu voudrais délivrer du mal tous les oiseaux. Tu attaches des clochettes au cou des chats et tu te promènes la tête dans la grisaille des nuages en rêvant que ton geste ridicule puisse empêcher la ville de sombrer. Tu ne sauveras que quelques passereaux, mais tu agis. Tu oses agir avec l'espoir d'alléger un rien la détresse, puisque la détresse risque de t'emporter. Juste un geste, et ce mot, tout droit sorti d'un autre siècle, charité, que tu récupères en cherchant une posture pour vivre adossé à l'abîme. Tu ne te rappelles pas quand le poème s'est tourné contre toi. T'as secoué comme un édredon trop habitué au sommeil, t'as forcé à ne plus te mentir. Tu t'es mise à psalmodier des airs invisibles à ton oreille, des airs scellés dans les replis de l'enfance. Il t'attendait dans la patience du jour prêt à se lever, il t'attendait, vieille chair encore attachée à tes os comme une fois sortie tout droit de la boue. Musique de la rue, musique de la lumière voltant dans les feuillages, musique verdoyante de toutes les musiques qui un instant a recouvert la plainte de la terre. Tu as vu se découper devant tes yeux l'ombre de la beauté. Toi qui ne reconnaissais que ta dette envers la douleur, tu as soudain reconnu ta dette envers la joie. Très, 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 très beau. J'aime beaucoup ça. Donc voilà un peu la poésie des années 80.
Poétiquement vôtre, votre émission du Jasmin d'Argent.